Les bêtes sont merveilleuses parce qu'elles sont en contact direct avec la nature.
CO2, mon amour.
Les animaux vont disparaître, il n'en restera plus bientôt. L'année passée, j'ai eu deux nids d'hirondelles et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement, si pauvrement alimentée grâce au progrès de la science.
Avec Denis Chessou.
La science chimique qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme, on s'en apercevra peut-être trop tard. Grâce à cela, il n'y a plus d'oiseaux.
Sur France Inter.
Eh bien ça, c'était quand même dans les années 60, et l'homme assez visionnaire, eh bien c'était Michel Simon. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 de mon amour, de la nature, de la biodiversité. Vous le savez, on va parler donc d'animaux avec Jean-Louis Fournier dans cette émission où la nature tente de chuchoter à vos oreilles, avec Tiffany Battistel aujourd'hui à la technique, et assistée de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Bon, bien sûr, avec une petite humeur. Tu as vu les humains? Ils ont gagné 19 kilomètres de rayon d'action d'un coup. Ouais, c'est le gardien-chef, Monsieur Castex, qui a signé le bon de sortie. Alors, avant, ils éclataient la planète à coups d'avion, comme ils voulaient. Et puis, le virus leur a coupé les plumes. Oh, ils ont pas aimé, hein, parce que l'homme a toujours eu besoin de dépouiller la terre où il veut, quand il veut, de cramer sans compter. Il vénère la cigale, n'a jamais compris la fourmi, parce qu'en fait l'homme, bah, il est pas fini. Moi, l'escargot, en une seule vie, je fais rarement plus que le tour du jardin. Tout antenne au vent, bavochant d'une feuille de laitue à l'autre, sans trop faire de salade à ma concurrente directe, la limace. Moi, l'abeille, je vole hors la ruche, butinant de fleurs en pollen, explorant vaillamment mes 3 km² d'espace aérien. C'est mon rayon d'action pour un rayon de miel. 3 km que moi, le hérisson, né humide, tout hérissé de rosée, je fais en furetant pendant les heures, croisant dans la nuit maint chemin de campagne et force route qui me coûte trop souvent la vie. Et compère le loup, solitaire et flanqué, expulsé de la meute, franchissant frontières et vallées, pour trouver un foyer, 50 km par jour il peut faire. Hein. Certes, mangeur de viande et un peu trop de gigot, mais à l'empreinte écologique excellente. L'hirondelle passe d'une seule aile de sa grange de Bourgogne au Sahel, comme l'humble fauvette traversant d'une seule traite la grande bleue et la crête du Haut Atlas. Allez donner une autorisation de 20 km à une baleine à bosse. Elle vous rira à votre masque, à votre nez masqué. Ouais. Survolant 25 000 km par an, d'une nage puissante, elle passe d'un hémisphère à l'autre, comme on passe au salon. Mais pour damer le pion à tous, la sternarctique, vous la connaissez, championne hors catégorie. Je promène mes 100 grammes de plumes jamais confinées du Cap Nord à l'Antarctique. 70 000 km par an quand même, ouais. Alors il faudra à l'arrogant bipède plus qu'une carte Navigo pour faire le même chemin. Pauvre de nous. Hier encore, 1 km autorisé, nous marchions sans même un coup à boire sur notre chemin de ronde sans ailes et sans nageoires. Et regardez comme on nous a habitués. On arrive à se dire, ah mais c'est étonnant, c'est formidable, 20 km de rayon et 3 heures dehors. Hein. Tout ça pour faire la queue chez Zara, pour aller acheter des fringues qui ont fait 10 000 km. Étonnant. Les animaux rigolaient doucement en voyant nos libertés s'effilocher, l'information qu'on réduit à la cuisson, tout ça pour plus de sécurité. Nous, à plumes, à poils, nageoires ou écailles, on est libre. Ah, évidemment, dans la limite des espaces que vous nous laissez et que vous n'avez pas encore détruits. Libre sans remplir de papier, sans laisser les mêmes traces que vous. Alors vous voyez, les animaux, c'est aussi pour ça qu'au smartphone, on n'est jamais passé. Allez, protégez-vous. Nous, les bêtes, on vous aime bien quand même. On a parfois besoin de vous pour acheter nos croquettes. Et donc, émission consacrée aux animaux avec l'écrivain Jean-Louis Fournier dans quelques instants qui nous dira merci qui, merci mon chien.
Send it in my letter
Alors, numéro 15, c'est là.
Allez hop.
Allez hop, comme vous dites. Je vais saluer Art Déco parce qu'il faut se mettre toujours très très bien avec les chats. Ah bah oui. Vous allez bien, cher Jean-Louis ?
Bah oui, dans cette ambiance de fin du monde.
Oui, c'est ça.
Hein, venez ici, Art Déco.
Art Déco, on va la dépeindre parce qu'on manque un peu d'image. Donc elle est blanche tachetée de noir de façon extrêmement élégante.
Oui, elle a une robe blanche et elle a des taches noires artistiquement déposées.
Et c'est elle donc qui a relu votre livre ?
Oui, c'est elle qui l'a relu. Et j'étais un peu inquiet parce que il y avait des trucs qui ne lui plaisaient pas trop dedans. Et puis alors à la fin, je la regardais lire tout ça. Et puis à la fin, quand elle a eu fini de lire, elle m'a dit... Je suis fier de toi, t'aurais mérité d'être un animal.
Alors après les flamands en Camargue, les chouettes du pays de Sarrebourg, le chien de Nicolas Hulot en Bretagne, le vent d'Ardèche et j'en passe, et bien cette semaine, on se calme, un coup de vélo direction le 20e arrondissement de Paris, et là vous imaginez donc les lieux, il y avait une ancienne carrière, et puis après il y a eu une ferme avec des vaches dessus, vous avez une rue qui s'appelle la rue des Montibeux, qui est pas loin. Alors on les a virés avec le fermier pour construire des maisons. Quelques acacias, reconnaissant d'avoir été épargnés, ont grandi, et dans une de ces maisons, un ancien réalisateur de télé, entre autres de Pierre Desproges, aujourd'hui auteur profond et facétieux, j'ai nommé Jean-Louis Fournier. Donc, l'humour en bandoulière pour conjurer le sort et écarter un peu les tôles qui lui sont quand même tombées sur la tête. Tête encore solide, car les dernières phrases qui en sont sorties concernent les animaux. Merci qui ? Merci mon chien aux éditions Bûcher-Chastel. Et alors, ça a l'air un peu bête quand même, ce mot de bête.
Ça, c'est, je trouve que c'est quelque chose d'absolument hallucinant, ça. Qu'on ait choisi le même mot bête pour dire animal et puis dire crétin. C'est comme si on disait humain et crétin.
C'est-à-dire qu'il faudrait supprimer l'objectif, mais...
Non, mais moi, j'ai fait une pétition avec les animaux. Là. Pétition qu'on a envoyée à l'Académie française en disant, écoutez, il faut faire quelque chose pour le mot bête. Parce que imaginez un peu tous les petits animaux qui naissent avec le mot bête. Non, mais il y en a qui font des dépressions. Je peux vous dire qu'il y a un vent de révolte qui souffle. Alors, cette pétition demanderait à ce qu'on supprime que le mot bête soit utilisé comme substantif simplement pour désigner les animaux, éventuellement, mais qui soit retiré comme adjectif péjoratif pour dire con.
Alors le problème, c'est que vous avez écrit à l'Académie et qu'ils ont déjà dépassé la lettre B.
La réponse était, écoutez, oui, on a pris acte de votre demande, mais seulement, il défile le dictionnaire. Et là, ils ont dit, on a dépassé la lettre B. On est à la lettre C. Justement, on est à con. Et ils m'ont dit, alors on va quand même faire une chose, on va retirer con des synonymes de bête.
Il y a quelqu'un qui a peut-être pas été très très cool avec les animaux, c'est quand même Dieu.
Dieu dit que la terre produise, selon leur espèce, les êtres qui marchent sur le sol, animaux grands et petits, et toutes sortes de bêtes sauvages, selon leur espèce.
Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages et même les steaks dans les prés. Enfin...
Dieu, il s'est comporté d'une façon tout à fait étrange avec les animaux en disant que les hommes allaient pouvoir en disposer.
Et Dieu vit que cela était bon.
c'est hallucinant, parce que quand on voit ce que font les hommes, par moments on est un peu gêné, parce que franchement, ils font des dégâts les hommes quand même. En revanche, tous les gars qui s'occupent des animaux, qui découvrent petit à petit le monde animal, sont admiratifs des performances des animaux. Et quand on sait que l'homme est maître après Dieu, il y a une erreur de casting là quand même.
Alors là, vous n'en avez pas dans votre jardinet, mais vous pourriez. C'est les poules. Et on a une certaine ingratitude quand même envers les poules.
Il y a surtout une chose qui est hallucinante. Moi, j'imagine une poule qui vient de pondre. C'est vachement bien de faire un œuf. Hein. Au début, c'est bien foutu, un œuf. Hein. Puis tout ce qu'il y a dedans. Puis ça peut devenir un oiseau. Et la poule, elle pond son œuf. D'ailleurs, elle est fière, elle chante, elle veut que tout le monde le sache. Et il y a un mec qui arrive, l'homme. Il prend l'œuf, il se casse avec l'œuf et il casse l'œuf. Et il pourrait quand même dire « Merci ma poule, même pas ».
Les animaux extraordinaires de Pierre Desproges.
Cette poule est la mère de ses chiens. En fait, c'est la mère adoptive, c'est elle qui les a couvés, qui les a élevés. Ils ont été abandonnés par la mère, qui était une épagnole, et qui est partie d'ailleurs avec un chanteur épagnol, et qui a laissé tomber ses quatre petits. Et c'est cette poule qui les a recueillis sous son aile. Et ils rentrent tous les cinq dans le poulailler, et puis c'est le chant du coq-chien qui les réveille le lendemain matin. Mais ils ne pondent pas, je tiens à préciser. On a beaucoup fabulé là-dessus, aucun chien n'est capable de pondre.
Alors parmi les questions que vous posez, Jean-Louis, pourquoi l'homme offre à sa femme un manteau en peau de panthère et jamais le tigre n'offre à sa femelle un manteau?
Parce que le tigre, quand il dévore une femme, il la mange avec la peau.
Étonnant, non?
Alors, une question importante, est-ce que l'on peut manger celui que l'on aime?
Ça, c'est une vraie question, ça, parce que actuellement, il y a une ambiguïté. On dit, oui, toi, tu adores les animaux, et puis, tu les manges. Moi, je distingue, si vous voulez, la souffrance animale et la mort des animaux. Je pense que la souffrance animale, c'est la pire des choses. Faire endurer des vies d'enfer à des animaux... Mais à la limite, écoutez, les manger, ça fait peut-être partie de la chaîne alimentaire, de la vie, et puis... Il faut qu'ils soient tués dans des conditions bonnes, parce que ce qu'on nous raconte quand même sur les abattoirs, c'est pas très très gai.
Et d'ailleurs, vous pensez toujours à la solitude d'une vache qui peut se retrouver seule dans un abattoir.
Ah oui, ça, j'ai vu récemment comme ça une image. On voit des images terrifiantes à la télévision. Et c'était une vache qui était seule comme ça sous du néon. Et cette espèce de belle vache. De 800 kilos, qui est apaisante, qui était faite pour gambader, elle était là, terrorisée, elle était sur du béton, puis apparemment c'était mouillé le béton, elle avait peur de se casser la gueule, puis elle allait passer carrément à se faire abattre, et là il y avait une angoisse dans son regard qui était intolérable, ça m'a marqué, quand j'en parle, je pense encore à cette vache, le climat qu'il y avait autour d'elle, c'était vraiment terrible, et épouvantable.
Ils sont souvent indissociables des paysages grandioses de nos campagnes. Une douce mélodie pour les ruraux, mais un vacarme assourdissant pour certains citadins qui n'hésitent plus à porter plainte. Sur l'île de Léron, le coq Maurice, 4 ans, une voix inimitable, pourrait bientôt faire les frais de cet acharnement judiciaire.
Eux, ils reprochent d'entendre le coq tôt le matin, point barre, c'est ça. Voilà, c'est la seule chose qu'ils veulent pas, c'est d'entendre ce coq tous les matins.
Alors ce qui est dingue aussi, c'est quand même, parfois les voisins, l'homme qui va se plaindre des animaux, quoi. Il a envie qu'on coupe les cordes vocales au coq, il n'aime pas les poules, enfin, etc.
Oui, il aura envie de tuer les oiseaux qui chantent. C'est quand même inimaginable, enfin, les oiseaux ont le droit de chanter. Et les hommes sont quand même un peu étranges, hein, franchement. Tout ce que nous amènent les animaux, regardez les chiens d'aveugle. Attends. Moi, je ne peux pas voir un chien d'aveugle sans avoir presque les larmes aux yeux. C'est normal, je suis très vieux, et quand on est vieux, on pleure pour tout. Et on devient gâteux. Et par moments, j'ai cette espèce... J'ai vraiment les larmes aux yeux quand je regarde un chien d'aveugle. Il est concentré, on sent qu'il s'occupe de rien d'autre que de son maître. Il a beau avoir un os, il y aurait même eu une escalope de veau. Par terre, je pense qu'il ne prendrait pas l'escalope de veau, parce que c'est le maître. C'est quand même extraordinaire. Et puis, il ne demande pas de pourboire, le chien.
Non.
Ils se plaignent pas, les bêtes, c'est ça qui est très étonnant. Alors quand vous voyez des gens qui se plaignent parce que les oiseaux font trop de bruit le matin, vous êtes gêné d'être un humain.
Jean-Louis, vous remerciez aussi donc les bénévoles, que ce soit donc les vétérinaires, les centres de soins. Vous parlez d'une Julie qui a recueilli des oiseaux blessés.
Ah bah écoutez, dans une époque où on dit que la motivation principale des hommes, c'est de gagner du fric, eh bah, il y a des gens qui passent leur temps à faire des choses et ils ne demandent pas d'argent. Bénévoles, c'est quand même formidable.
Alors justement, on va rencontrer un homme avec Christian Couloumi. Cet homme s'appelle Michel Fizel. Donc nous allons partir bien au sud, dans les Hautes-Alpes, pour rencontrer ces deux hommes. Bonjour Christian Couloumi.
Bonjour Denis.
Alors, homme des oiseaux, président de Envergure Alpine. Et alors là, racontez-nous, parce que en fait... Vous avez récupéré un petit duc.
Voilà, c'est ça. Ce sont des gens qui ont percuté cet oiseau la nuit. Ils l'ont récupéré et ils m'ont contacté pour savoir ce qu'il fallait faire. Ben, la bonne solution, c'est d'essayer de contacter un centre de soins de la faune sauvage. Et ce que j'ai fait, la personne de Michel Fizel, qui pour les Hautes-Alpes et pour les Alpes de Haute-Provence, tient un centre et récupère un peu toutes les bêtes qui sont en difficulté. Quoi. Alors il a le petit duc dans les mains actuellement, il est en train de l'examiner. Il a vu, alors il est expert là-dessus, que c'était un mâle. Hein Michel, c'est bien un mâle.
Oui. Michel, d'abord, bravo, parce que c'est un boulot incroyable de bénévole que vous faites depuis des années, comme dans beaucoup de centres de soins. Vous êtes absolument un passionné. Et alors là, c'est un peu le diagnostic. Donc on a ce petit duc. Alors, peut-être déjà le dépeindre. On voit ses serres, on voit ses deux yeux bien ouverts.
Ouais, c'est donc un rapace qui va manger beaucoup d'insectes, donc des papillons de nuit, etc. Et cette particularité, c'est comme nocturne, il va repartir en Afrique transsaharien. Et donc c'est une petite particularité, parce que quand on voit cette taille, pas très très grand, hein, il n'est pas très énorme, il fait la taille d'une main,
c'est une main, oui.
Grosso modo, et on se dit, ce petit oiseau va repartir, traverser la France, repartir en Méditerranée, en Afrique. Bon, voilà. Sauf que là, aléa, rencontre humaine, un peu impromptue, et puis donc on va essayer de le réparer pour qu'il puisse repartir.
Qu'est-ce que vous diagnostiquez là comme ça donc,
Bon ben là, il a eu un choc, mais bon, ça, y a rien de cassé au niveau aile, donc les ailes s'ouvrent normalement, voilà. Et puis après, les serres marchent bien, etc. Donc voilà, on va essayer de le faire manger.
Michel, lorsque l'on récupère un oiseau ainsi, on prend quoi? Une boîte en carton pour pas qu'il y ait de lumière?
Alors, on va essayer de le mettre surtout en sécurité, et donc essayer de moins le stresser. Sachant qu'un animal qui stresse, il perd 10% de son poids à chaque fois.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, donc, quand vous voyez un petit duc comme ça, ou bien peut-être d'autres animaux, mais celui-là en particulier?
Moi, je suis avec eux. Je peux comprendre, je sais que même lorsqu'ils vont passer sur le billard, lorsque je suis obligé de faire intervenir un vétérinaire, et je regarde cet animal qui est en train d'être opéré par, là, du coup, un vétérinaire. Mmh. Et je peux vous assurer, moi, je dis, attention, là, il faut peut-être augmenter un peu l'oxygène parce qu'on est en train de le perdre. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas vétérinaire, mais je ressens. Et du coup, on remonte un peu, et là, on voit, ah bah, t'avais raison. Mais je ressens. Et si je puis me permettre, c'est lorsque l'on trouve un animal sauvage blessé ou en détresse, on ne récupère pas systématiquement, parce que souvent on a la tendance de récupérer, ça c'est notre côté judéo-chrétien, on récupère le petit orphelin, etc. Or, il n'est pas du tout orphelin. Les parents l'incitent à voler. Alors, il vient de sauter du nid, il apprend à voler, et puis on dit, ah mais il va... Non, il faut le laisser avec ses parents, pour dans un premier temps. Et après, si jamais il est vraiment en détresse, oui, ne pas essayer de faire une tambouille pour essayer de le sauver. Parce que souvent, on va lui faire ingérer des tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'alimentation de cet animal, parce qu'on a notre idée, et on va lui faire donner à manger, et puis ça va être une catastrophe.
Donc ne pas lui donner de Nutella, quoi.
Ben, on va essayer, non. Pas
c'est
trop.
Ça, oui.
Voilà.
Bon, ben, mon petit père, t'es plutôt dans de bonnes mains, là.
On va essayer, oui.
Ouais.
Surtout qu'il a d'autres collègues qui l'attendent au centre. Puis en plus, je vais essayer du coup de les relâcher tous ensemble. Du coup, vu qu'ils repartent en Afrique, hop, on relâche toute la bande ensemble. Ouais. Et donc, ils s'appellent et puis, ouais, ma foi, font la route ensemble, s'ils veulent.
Que c'est chouette, là. Là, vous relevez les petites plumes.
Oui.
Et hop, et je ferme les yeux. Mais je suis pas... On voit bien qu'il n'est pas stressé, là, comme ça.
Non. Pas aller. Ben, j'ai cette particularité où lorsque je prends l'animal, souvent, les animaux, ils se calment. Je ne sais pas pourquoi.
Merci Michel Fizel. À très bientôt.
Ben, merci à vous.
Et depuis, le petit duc est reparti. On a pris de ses nouvelles. Centre de sauvegarde de la faune sauvage Aquila à Vitrolles. Alors, c'est pas dans les Bouches-du-Rhône, c'est dans les Hautes-Alpes. Donc, il fait un boulot formidable. Eveto d'ailleurs aussi. Puis vous avez aussi, si vous voulez voir le site d'envergure alpine aussi, ne vous gênez pas. Ah, alors, donc, quelqu'un qui est davantage, on va dire, bagnole que petite fleur. On va donc l'écouter avant de retrouver Jean-Louis Fournier. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, peut-être que sa grande gaieté naturelle l'a écarté complètement de l'écologie. Il est plus moteur. Il est bon, hein, mais c'est plus l'écologie. Voilà. C'est sur France Inter, c'est sur De Mon Amour.
Ce matin-là, par erreur, je m'étais levé trop tôt. C'est un vieux moteur, si tu soulèves le capot. Quand je t'ai vu arriver avec ton air de ne jamais se toucher, ton col Claudine, ta sucette et cette impression, t'avais déjà volé, volé. Oh, cœur, même pas maquillé. Là dans le ciel, il y avait des nuages obscènes. Les gens avaient l'air de hier en regardant ma pauvre dégaine. Puis je t'ai vu embrasser ce barbu qui avait l'apparence du parfait trader. Il n'en voulait qu'à ton cul, quant à moi, je n'en voulais qu'à ton cœur. Aucun, même pas maquillé. T'es belle comme une voiture volée. T'es la balle qui m'a fait tomber. T'es belle comme une voiture volée. Si tu savais que t'es toute ma vie, que t'es mon soleil. Moi je suis facile, que je m'allonge tranquille, que je suis soumis, que t'es toute ma mort, que t'es toute ma vie.
Choisi par Thierry Dupin comme une voiture violet. Moi, c'est amusant.
CO2, mon amour.
Lorsque vous avez un chasseur qui, par erreur, tue son chien.
Denis Chessou.
À qui on doit envoyer ses condoléances? Au chasseur ou à la famille du chien?
À la famille du chien, bien sûr.
Voilà. Donc, vous avez une cabane au fond du jardin, là, dans le 20e arrondissement. Vous avez alors, des rats du ciel. Comprenez les pigeons qui fertilisent le jardin de Jean-Louis Fournier, les pots de fleurs et les passants. Alors, Jean-Louis Fournier, donc, auteur et son chat préfèrent... Ils aiment les oiseaux tous les deux, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Allez, on continue le voyage.
Alors, regardez Art déco. Là, ça nous emmène, évidemment, sur la grâce naturelle des animaux. Il est en train de faire sa toilette. C'est un délice tout plein.
C'est un rêve de les regarder. Je trouve qu'ils enchantent le monde, les animaux. Les oiseaux enchantent le ciel, les poissons enchantent la mer. Il n'y a pas de paradis terrestre sans animaux, je pense. Quelquefois, j'ai essayé, en faisant ci, alors j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que ce serait le monde où il n'y aurait plus d'animaux. Ce serait épouvantable. J'ai beaucoup d'amis qui aiment les animaux. Et je me demandais, qu'est-ce qui vous passionne le plus chez les animaux? C'est leur mystère. Et c'est vrai qu'ils sont complètement mystérieux. Je me dis, ce que j'aimerais bien dans la tête d'Art déco, savoir qu'est-ce qu'elle, comment elle me voit, ce qu'elle pense. Parce que je suis persuadé qu'il pense. Mais à quoi il pense? Il pense à des trucs.
Puis de toute façon, quand même, pendant...
Parce que regardez, les maîtres sont intarissables pour parler de leur chien.
Oui.
Bah, demandez à un chien ce qu'il pense de son maître.
Ah oui,
Par discrétion, il dit rien.
Michel Serrault, qu'est-ce qui vous intéresse dans les gros chiens? Vous aimez les gros chiens?
Moi, personnellement, j'aime mieux la présence d'un gros chien. Et puis, ça a l'air d'un chien. J'aime bien des bêtes qui sont pas trop trafiquées. Parce qu'il y a des... J'avais des chiens, on sait plus très bien ce que c'est.
Oui.
C'est une machine à coudre, un chien, un chapeau de... avec des fleurs. Enfin, on ne sait pas très bien. Je veux dire, par là... Vous savez, le chien, pour moi, c'est un peu comme la cuisine. J'aime les plats nets.
Solides.
Solides. Oui, mais nets, qui sont pas trop sophistiqués.
Alors, il y a les animaux bienfaiteurs que vous mettez en avant. 1783, le premier vol en ballon des montgolfiers. Dedans, vous avez donc un canard, un coq, un mouton.
C'est Louis XVI qui n'a pas voulu qu'il y ait d'hommes qui montent dessus. C'est les montgolfiers. C'est quand les montgolfiers ont fait leur premier ballon. Il n'a pas voulu qu'il y ait d'hommes parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de mort d'hommes. Alors, c'est pour ça qu'on met des animaux. Allez, on les envoie comme ça. Et puis on a continué à le faire un peu hein, pour les vols spatiaux.
On peut aussi citer quand même Laïka, je crois qu'elle est un peu connue maintenant, donc cette petite chienne qui est partie première fois le tour de l'espace.
Ouais, et en remerciement, on l'a euthanasiée quand elle est revenue pour faire des études. Et on lui a fait une statue. Ça lui fait une belle jambe. Mais c'est inouï, cette histoire. C'est-à-dire, les hommes, quand ils ont la trouille, ils disent, tiens, on va d'abord essayer avec un animal comme ça, on verra. Parce que si on tue un animal, bon, ma foi, on se fera une raison.
Alors, dans les animaux bienfaiteurs aussi, vous donnez un très bon conseil en cas d'épidémie et de pandémie, ce qui est à peu près le cas.
Oui, je pense que c'est une chose auquel on n'a jamais songé, c'est d'avoir un lion ou un tigre en laisse. Et il faut que la laisse fasse un mètre, de façon à ce qu'il y ait toujours la distance sanitaire entre nous.
Et donc là, vous êtes certain de ne pas avoir des gens qui s'approchent de vous ?
Très vraisemblablement pas.
Que dire à un lion quand on lui a marché sur la queue ?
Jamais excusez-moi, mais je vous prie de bien vouloir m'excuser.
Alors si on part à l'étranger, d'abord si on va pas très très loin, on va aller en Suisse. Ensuite, ils ont une loi très intéressante pour les animaux de compagnie.
Ça c'est extraordinaire ça. On n'a pas le droit d'avoir un animal seul. Il faut qu'il ait un compagnon ou une compagne. Ça je trouve ça génial d'avoir pensé à ça. C'est formidable. Et alors ils ont des amendes, hein, les gens qui ont... Mais je crois que ça va même jusqu'au poisson rouge. Ça je trouve ça très émouvant, ça qu'on pense comme ça à l'ennui des animaux. Parce que... Peut-être qu'ils s'ennuient, ils se plaignent jamais, donc on ne peut pas le savoir. C'est à nous de décoder un peu leur...
Et puis nous avons aussi le Costa Rica. Là, c'est très intéressant parce que dans la banlieue de la capitale du Costa Rica, bah, il y a un maire. Allez, hop, il a pris son décret.
Oui, ils ont reconnu certains animaux comme citoyens de la municipalité. Alors, les abeilles, les souris, les colibris, les papillons. C'est charmant.
Michel Simon, on peut penser que vous essayez de trouver chez les oiseaux une certaine compréhension que vous ne trouvez pas forcément chez l'être humain, non ?
Oui, ah oui, il est beaucoup plus facile parce que il n'y a pas les barrières imbéciles des lois, de la morale, de tout ce que l'on enseigne à l'être humain depuis son plus tendre enfance jusqu'à ce qu'il devienne un parfait crétin.
Alors, il est peut-être temps aussi, je ne sais pas dire de régler son compte, mais quand même, parce que le gars était quand même sacrément intelligent, notre mathématicien, notre philosophe, donc il s'agit de Descartes, l'homme de la Touraine au départ, je pense donc je suis, d'accord, mais après, évidemment, l'animal-machine, là, ça y a été. Quoi.
Non, mais et c'est quand même un gars intelligent comme Descartes. Oui. Qui l'ait pu dire que les animaux n'avaient ni pensée, ni conscience? Je crois qu'il utilise le mot, c'était des machines dont on peut disposer. Moi, c'est contre ça que je me bats.
On n'est pas au même siècle, hein. on est en train
Oui, mais bon, écoutez, je sais pas, il avait dû boire du vin de Touraine, vraisemblablement. Et ça continue, cette idée que, finalement, sur Terre, dans les espèces vivantes, il y a les maîtres et puis il y a les esclaves. Alors, les hommes, ce sont les maîtres et les animaux, ce sont les esclaves. Moi, je suis pas du tout d'accord, c'est pas nos esclaves, les animaux.
Quoi de neuf, docteur ?
Est-ce que des lapins peuvent assister à l'enterrement d'un chasseur qui a été tué pendant un accident de chasse ?
Oui, à condition de ne pas rigoler pendant la cérémonie.
Les courageux membres du mouvement Red War, qui militent pour l'extermination des espèces en voie de disparition, malgré le peu de fonds dont ils disposent, ont néanmoins réussi à organiser une nouvelle expédition pour l'Antarctique.
Quelle espèce en voie de disparition partez-vous exterminer ?
Les baleines, toujours les baleines. C'est à notre avis le problème le plus urgent. Ça traîne depuis trop longtemps, les baleines.
Je crois que vous venez de recevoir une lettre qui vous fait très plaisir avant votre départ.
Vous voulez parler de la lettre du petit garçon là, du Loir-et-Cher, et qui m'a dit qu'il avait tué avec sa carabine un canard roux de Hollande. Et à notre avis, c'est le seul qui restait.
Ah ben voilà, donc de nouveau dans votre petit jardinet. Alors Jean-Louis, ici, qu'est-ce qui domine? C'est le pigeon que vous aimez bien?
Bah oui, j'aimerais mieux que les mésanges remplacent les pigeons. Les mésanges, c'est absolument sublime, hein. c'est des cadeaux, c'est des petites fleurs quand elles sont dans les arbres.
Mais ça a été un endroit en fait pour les vaches, parce que des fermes, il y en avait autour de Paris, il y en avait aussi dans Paris.
Mais hein. Même cet endroit ici, là, où on est, c'était avant une carrière, et quand la carrière a été épuisée, c'est devenu une espèce de petit îlot de verdure. Il fallait un permis de chasse pour venir ici. C'est génial, ça. Hein. Oui, il y avait des vaches. Parce que je sais que quand il a été question de construire ici, on a viré les vaches, mais on a gardé les arbres, les acacias.
Jean-Louis, pourquoi vous êtes intéressé vraiment à ces animaux? Je sais que vous aimez, évidemment, votre chatte qui est là. Je vous ai toujours connu avec un animal de compagnie, mais...
Pourquoi j'aime bien les animaux? Parce que...
Vous avez fait ce bouquin.
J'ai l'impression que ce sont des calmants pour moi. Ils me fascinent, ils me remettent en prise directe avec la nature. Moi, j'aime beaucoup la nature. La nature, c'est vraiment un truc que je trouve formidable. Mais eux, ils sont des liens. Ils me remettent en phase avec la nature. Parce que le monde que les hommes fabriquent est un monde absolument terrifiant, de plus en plus.
Qu'est-ce qu'on peut écrire à un chien qui vient d'être abandonné, Jean-Louis?
Cher chien, j'ai envie de te dire... C'est peut-être mieux pour toi. Ne cherche pas de retrouver ton maître. Il ne te méritait pas. Ou alors tu viens avec tous tes copains, empêché de dormir en aboyant toute la nuit. Et pour lui apprendre à vivre, chiez-lui dans les bottes et filez-lui la rage.
Étonnant, non?
Jean-Louis Fournier, il y a aussi un moment où vous avez souhaité donc devenir un animal. Et donc là, vous avez même consulté votre vétérinaire.
Ben, j'ai voulu un moment être un animal, parce que j'en avais un peu marre de ma condition d'homme. C'est chiant d'être un homme. C'est pas toujours marrant. Surtout moi, j'ai eu quand même quelques tuiles somptueuses qui me sont dégringolées du ciel. Ça vient du ciel, les tuiles, hein, vous avez remarqué. Donc, je me suis dit, tiens, si j'étais un animal, parce qu'à un moment, j'étais fermier dans ma vie, et je garde une passion pour les vaches, et surtout pour les vaches paisibles. Je me souviens des ambiances dans l'étable, c'était absolument génial. Elles sont jamais énervées, les vaches. Elles regardent pas leur montre, leur smartphone. Hein. Et puis, je sais pas, il y a dans leur regard quelque chose, c'est apaisant. Et je me dis, si j'étais une vache, peut-être que je serais apaisé.
Alors, attention, détendez-vous complètement là, hein, et établissez un contact avec les vaches. Allez-y. Très bien, vous allez parler à ces vaches. Léa. Tiens, la pureté de ce paix, tu auras réussi ton stage.
Alors, à l'origine, c'était pas forcément ce titre-là. Et c'est en fait votre chatte qui l'a corrigé, parce que c'était « Merci qui, merci mon chien », tendre savoir-vivre avec les animaux.
Au début, je voulais l'appeler « savoir-vivre avec les animaux avant de les manger ». C'était un petit peu provocateur.
Ouais,
ça... Puis Art Deco m'a dit « Oh, ça c'est trop cruel ». Bon, elle est un peu gonflée parce que la veille, elle avait mangé un merle.
Ce qui est très intéressant, c'est aussi toutes les études qui ont lieu en ce moment. C'est-à-dire que entre les histoires de conscience, de sensibilité, ça évolue quand même drôlement. Ça.
On est en train de découvrir des choses absolument inimaginables. Et il y a une journée de l'intelligence animale, par exemple. Déjà, le fait qu'on mette intelligence et animal ensemble, c'est formidable. Et c'est la conclusion du colloque c'était l'année dernière, je crois. C'est un savant, je crois que c'était un Anglais, qui a dit « La suprématie de l'homme sur l'animal est une pure fiction. Et il n'est pas possible que les animaux soient excessivement importants pour la survie du monde. »
Et ben au revoir Jean-Louis Fournier.
Ben merci Denis, hein, et puis continuez à vous occuper des bêtes. Je vais parler de vous à tous mes amis les animaux.
Oh. On va essayer, Jean-Louis, parce que dans 2 semaines, vous aurez l'émission sur les tortues. Les tortues plutôt marines, d'ailleurs. Je vous recommande d'ailleurs aussi son étoile amoureuse d'un ver de terre. Je pense que Victor Hugo aurait beaucoup aimé. Donc, merci qui ? Merci mon chien chez Buchet Chastel. C'est donc un régal. Merci à Tiffany Battistel, à Julien Dumont, qui a formidablement mixé donc ce reportage, à Camille Blanès, à Xavier Pestugia, qui a trouvé toutes les subtilités dans ce reportage. Quand je dis que c'est mon coloriste, c'est exactement ça. Anne Gouzon nourrit les sites. La semaine prochaine, je vous emmènerai dans les Mauges, autrement dit dans le Maine-et-Loire. Sur un territoire, on va mélanger à la fois énergie, agriculture, bocage. Allez, allez, je mélange et ça va vous faire donc un reportage. Et donc, le Twitter Denis Chessoux, les podcasts, bah, vous en avez l'habitude, hein, ça peut s'écouter n'importe quand, 3h du matin, tout ce que vous voulez. Voilà, donc podcast pour CO2 Mon Amour et aussi La Tue du Mon Petit Loup, j'y tiens. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche.